Les premiers jours de l'été s'étirent lentement sur la Palestine. La nuit est tombée depuis 2 heures, mais la chaleur refuse de fléchir. L'air semble immobile, la lune figée. Pas un souffle de vent, seulement le murmure lointain des ventilateurs et le crépitement des antennes de télévision. À Ramallah, Gaza, Hébron, Naplouse, Bethléem, les rues sont étrangement calmes. Un silence suspendu règne en maître. Les familles se rassemblent sur les terrasses, dans les cafés, les salons de thé, les maisons. Des écrans géants ont été installés sur les places. Tous les regards sont rivés sur le même programme. La finale d'Arab Idol. Une émission de type Nouvelle Star, suivie par des millions de personnes à travers de nombreux pays. Soudain, tel un éclair qui déchire la nuit, le silence se brise. Une clameur jaillit, immense, incontrôlable. Les cris montent des balcons, des ruelles, des toits. On danse, on rit, on s'étreint, on pleure. Un jeune Palestinien de 23 ans, nommé Mohamed Assaf, vient de remporter la finale d'Arab Idol. Quelques semaines plus tôt, personne n'aurait parié sur lui. Dans les villes et les villages, les visages s'illuminent de la même fierté. Sur scène à Beyrouth, Mohamed s'effondre, submergé par l'émotion. Lorsqu'il se tient à nouveau debout, il déclare avec conviction « La révolution ne se fait pas qu'en portant un fusil. Une révolution, c'est aussi le pinceau de l'artiste, le scalpel du médecin et la houe de l'agriculteur. » La Palestine retient son souffle avant d'exploser de joie. Nous sommes le 22 juin 2013. Il est 23h11 et c'est leur hache de mon histoire. Lorsqu'il monte sur scène avec les 4 autres finalistes, Mohamed Assaf n'en croit ni ses yeux ni ses oreilles. Le seul fait d'être ici à Beyrouth en finale de l'une des émissions les plus suivies du monde arabe paraît déjà trop étrange pour être réel. Le studio lui semble si grand, les gens si nombreux, si apprêtés, si souriants. Les lumières des spots l'aveuglent. Le sol semble se dérober. La voix de la présentatrice vient à lui par bribes déformées. Mohamed ferme les yeux un instant, puis les rouvre. Rien de tout cela n'est un rêve. Le jury, enthousiaste, vient de rendre son verdict. La présentatrice ouvre la grande enveloppe aux couleurs criardes. Dans celle-ci, le carton sur lequel est écrit le nom du vainqueur rappelle à Mohamed une invitation reçue de sa sœur pour son anniversaire. À l'époque, il chantait chaque soir pour elle dans le camp de réfugiés de Khan Younes, où ils ont grandi. Mohamed regarde le plafond. Le toit du studio de télévision semble s'ouvrir et laisser place à la voûte étoilée qu'il contemplait chaque soir pour s'endormir depuis le camp du sud de la bande de Gaza. Il pense à ses parents, à ses amis d'enfance, à sa famille aussi. Et lorsqu'il entend son nom prononcé distinctement par la présentatrice d'Arab Idol, Mohamed est soudainement happé par le présent. Il ne lui faut pas une seconde pour comprendre ce qui lui arrive. Sa vie bascule à cet instant précis. Les autres candidats applaudissent chaleureusement. Ils semblent sincèrement heureux pour Mohamed Assaf, la grande surprise de ce concours. Mohamed tombe genoux et front au sol. L'émotion est trop forte. Cette victoire semble irréelle. La joie qui tambourine dans son cœur et ses tempes, elle, n'a rien d'irréel. Alors il se relève. Il agrippe le micro qu'on lui tend. Ses premiers mots seront sans équivoque ceux d'un jeune homme décidé et conscient de ce qu'il vient de chanter pour remporter cette victoire. Une chanson qui deviendra bientôt un véritable hymne pour des millions de personnes. Ali El Kofia, traduit par Brandit le Kéfier. Une référence directe au célèbre foulard traditionnel porté par l'ancien chef d'État palestinien Yasser Arafat, mort près de 10 ans auparavant. Après la liesse incontrôlable et l'envahissement du plateau de télévision, le calme règne à nouveau lorsque Mohamed Assaf partage ses premières réactions en ces termes. Permettez-moi de remercier le peuple palestinien, qui est le peuple qui résiste. Durant toute la durée du concours, Mohamed a en effet alterné chansons d'amour et chansons politiquement engagées. Il devient aussitôt l'emblème de la résistance artistique d'un peuple et d'une génération. Mohamed Assaf, 23 ans. Il n'oublie pas les rudes épreuves auxquelles lui et sa famille ont dû faire face durant son enfance et son adolescence. Il est né à Misrata, en Libye, alors que ses parents fuyaient les violences incessantes. C'est entre les immenses barbelés qui entourent le camp de réfugiés de Khan Younes que Mohamed et les siens ont vécu de trop longues années. Ce grand camp était administré par les Nations Unies. Il abritait alors jusqu'à 45 000 réfugiés palestiniens ayant été expulsés de leurs maisons par les colons. La vie au camp n'a rien de très joyeux, on s'en doute. Mohamed fréquente l'une des écoles implantées au sein même de l'infrastructure. Ce qui lui permet de s'extirper de sa modeste condition, c'est le chant. Doté d'une voix exceptionnelle, il chante dès qu'il le peut. Durant ses déplacements dans le camp, lorsqu'il fait les queues interminables pour recevoir le pain et les portions de nourriture, il amuse les autres enfants et divertit les plus anciens, entassés sous les tentes agencées à perte de vue. Et chaque soir, il fredonne des airs pour endormir sa petite sœur. Celle-ci est très malade. Elle manque de soins dans ce camp de réfugiés où les pénuries de médicaments sont monnaie courante. Au fur et à mesure que s'amoindrit l'espoir des médecins du camp de voir sa sœur guérir, Mohamed passe l'essentiel de son temps au chevet de celle-ci. Et il ne s'arrête pas de chanter. Car d'une voix si faible qu'elle est à peine audible, sa sœur lui dit que l'écouter chanter est la seule chose qui l'apaise. Parfois, le jeune garçon a peur de la fatiguer. Non, ça me fait du bien, rétorque l'enfant. T'as une voix en or. Le monde entier devrait t'entendre. Son frère lui sourit. Leur destin semble noué. Lui qui n'imagine pas d'autre perspective que cette vie de réfugié. Comment pourrait-il chanter pour le monde ? Devinant son amusement, sa petite sœur plonge son regard dans le sien. Elle lui demande d'un ton doux mais empreint d'une gravité inhabituelle pour son jeune âge. « Promets-moi une chose, mon frère. Une seule chose. » Mohamed demeure muet. Il serre fort la main de sa sœur dans les deux siennes. « Promets-moi que tu continueras à chanter, lui dit-elle. » Une larme coule sur la joue du garçon. Après un long silence, il fredonne une berceuse pour sa sœur. Une mélopée à propos de la mer, des voyages et de l'espérance qui ne se tarit jamais. Peu de temps après, sa sœur meurt. Mohamed est totalement effondré. Mais il s'accrochera à sa promesse et continuera à chanter. Un chanteur ou une chanteuse reconnue est déjà l'équivalent de gravir une montagne pour n'importe quel jeune à travers le monde. Pour Mohamed, ça semble tout simplement inimaginable. Il vit dans un camp de réfugiés dont il est strictement interdit de sortir. Les autorisations sont rares et nécessitent d'autres raisons qu'un simple rêve artistique. Mais pour ne pas trahir le vœu de sa sœur disparue, Mohamed chante encore et toujours sur les petites places du camp. Devant un public de plus en plus nombreux. Il y apprend déjà les chants traditionnels et les hymnes patriotiques de son peuple. Personne ne peut rester de marbre devant ce jeune adolescent, à la voix si belle et assurée. Mohamed est régulièrement invité pour chanter ça et là dans le camp de réfugiés. Et les années passent ainsi. Toutes se ressemblent, mais le souvenir de la mort de sa sœur reste tenace. Un soir, alors qu'il revient du centre de distribution alimentaire, Mohamed remarque un attroupement. Quelques dizaines de personnes sont entassées à l'entrée d'une grande tente où une petite télévision diffuse un concours de chant. On lui dit qu'il s'agit de la finale de l'émission Arab Idol, un show télévisé créé sur le modèle de Pop Idol ou La Nouvelle Star. L'émission est diffusée mondialement sur la télévision saoudienne MBC One ainsi que sur LBC, une chaîne privée libanaise. Le concept est éculé, mais la recette fonctionne toujours. Un groupe de jeunes candidats originaires des quatre coins du Proche-Orient, de la région du Golfe Persique et du Maghreb s'affrontent sur scène lors de différentes auditions hebdomadaires. Un jury sanctionne leur performance. Mais il y a également un vote des téléspectateurs par SMS. Et ce mois de mars 2012, Mohamed assiste au triomphe de la candidate égyptienne Carmen Slimane, qui remporte la compétition haut la main. Il n'en revient pas. La jeune chanteuse vient de gagner une voiture de luxe et un rôle principal dans une campagne de pub avec Pepsi-Cola et Garnier. Mais surtout, un contrat avec Platinum Records, une maison de disques affiliée à la NBC. Mohamed est rivé à l'écran, mais son esprit est ailleurs. Autour de lui, les gens commencent à se lever. On éteint la télévision et on la recouvre d'une petite bâche. Mohamed est maintenant seul. Le vent fait voler la poussière et rouler les petits cailloux sur la terre battue. La voûte étoilée est d'une beauté à couper le souffle. Mohamed la contemple lentement avant de regagner sa tente dans la pénombre. Cette nuit, le jeune homme ne dort pas. Il s'imagine loin d'ici. Étape après étape, il élabore un plan d'évasion. Dans quelques mois, les premières auditions de la deuxième saison auront lieu en Égypte. Et Mohamed Assaf veut en être. Le jour J est arrivé. Mohamed va tenter le tout pour le tout, avec un seul objectif en tête. Rendre honneur à la promesse faite à sa sœur. Lors du chargement d'un camion dont il a observé le déroulé durant des mois, le jeune homme grimpe furtivement à l'arrière du véhicule qui se dirige vers le premier barrage situé à la sortie du camp. À peine le chauffeur s'est-il arrêté pour présenter les habituelles autorisations aux gardes que Mohamed soulève un coin de l'épistoile. Il n'hésite pas et s'extrait rapidement avant que le camion ne soit inspecté. Il court quelques instants, caché par le véhicule, puis plonge sous les larges colonnes de fil barbelé. Il rampe aussi vite que possible, plus que quelques mètres, et il aura franchi la dernière enceinte du camp. Brusquement, un pan de sa chemise s'accroche au barbelé. Les pics acérés lui lacèrent la peau et l'écorchent profondément au niveau du dos. Mais le jeune homme, plus décidé que jamais, ne flanche pas. Malgré la douleur qui l'étreint, malgré la peur qui lui noue l'estomac, il parvient à se libérer et continue quelques mètres encore. À tout moment, les gardes, toujours affairés autour du camion, pourraient l'apercevoir. Il entend les rires gras des militaires qui plaisantent avec le chauffeur. Arrivé à la fin de la barrière de fer, Mohamed se relève promptement, mais son geste manque de précision et il se coince la jambe dans le grillage. Il faut pourtant qu'il sorte. Alors, il la libère d'un coup sec. Il étouffe un cri de douleur. Il est de toute façon trop tard pour faire demi-tour. Le camion démarre, Mohamed se relève et malgré la souffrance, s'élance et court sans se retourner. Il se réfugie un instant dans des bosquets pour reprendre son souffle et ses esprits. Car s'il est parvenu à sortir du camp, il sait qu'il lui reste d'autres barrages à franchir. À commencer par ceux de la frontière qui sépare la Palestine de l'Égypte. Durant plus de 48 heures, il ne dort pas. Il profite de la nuit pour progresser discrètement, se gardant bien d'emprunter les routes. Il avance à travers le désert du Negev, puis le Sinaï égyptien. Il doit régulièrement ruser pour éviter les barrages. Il n'hésite pas à se joindre à des groupes et à profiter des mouvements de foule pour franchir les différents checkpoints. Le troisième jour, Mohamed parvient enfin à entrer en Égypte et dépense ses maigres économies pour attraper un bus pour Louxor. Le jeune homme arrive complètement épuisé aux portes de la ville. Il tente de se frayer un chemin à travers les nuées de touristes et la population dense de la célèbre cité. Bien que le soleil commence déjà à décliner, l'activité y est encore incessante. Mohamed ne tient plus sur ses jambes. Il trouve un recoin derrière des sacs de grains et s'endort recroquevillé sur lui-même parmi les errants et les chiens. Nous sommes le 10 octobre 2012. Les premières auditions auront lieu dès le lendemain. Après une courte nuit agitée, Mohamed se lève d'un bond et se renseigne pour trouver le bâtiment où se tiennent les auditions. Alors qu'il n'est pas encore 7 heures du matin, une foule immense s'y agglutine déjà. Mohamed se rafraîchit rapidement à une fontaine et prend ensuite place dans la longue file qui serpente devant le bâtiment. Au fur et à la queue durant des heures n'est pas quelque chose qui lui fait peur. Ce fut son lot régulier durant des années au camp de Khan Younes. Mais après que quelques dizaines de personnes aient pu franchir les portes du bâtiment, un organisateur du concours prend la parole. Il annonce, d'un ton désinvolte, que tout est terminé. Les numéros ont été attribués à tous les candidats. Sans numéro, il est évident qu'il n'y aura pas d'audition possible. Mohamed reste étonnamment calme, comme s'il savait que l'histoire ne pouvait s'arrêter ici pour lui. Il pense à sa sœur, morte faute de soins appropriés. Il pense à ses parents, ses proches, ses amis. Il ne renoncera pas. Il profite que les services de sécurité ont fort à faire pour adoucir les mécontents qui attendent depuis des heures pour longer le bâtiment. Une fois passé l'angle de la façade avant, il se rend compte qu'un mur est probablement franchissable et doit donner sur une cour. Alors sans hésiter, il se met à escalader. L'opération s'avère plus périlleuse que prévu. C'est alors qu'il distingue plus loin un escalier extérieur, sans doute prévu pour les évacuations d'urgence. Il doit être possible de s'agripper au revers des marches métalliques. Mohamed y parvient non sans mal, et le voici devant une porte d'évacuation. À travers celle-ci, il distingue le son sourd des basses d'une musique lancinante et de ce qu'il pense être des voix, des voix qui chantent. Il en est persuadé. Derrière cette porte se déroulent les auditions. Au moment où il inspecte la poignée de la porte, deux vigiles l'agrippent par les aisselles et le font reculer d'un pas. Questionné sur ses intentions, Mohamed ne courbe pas les chines un seul instant. Il commence à raconter son histoire aux vigiles, point par point, sans mensonge ni faux semblant. Touché par ce jeune homme prêt à tout pour participer, ceux-ci décident finalement de l'introduire dans le bâtiment. Une chance inespérée. À l'intérieur, tout le monde s'agite. D'ici quelques minutes, les auditions vont commencer. Les jurés attendent déjà derrière leur table. Les caméras sont prêtes à archiver la journée. On règle les derniers détails techniques. Mohamed aperçoit un groupe de jeunes femmes qui répondent aux questions de deux personnes arborant des t-shirts estampillés Arab Idol. Il se joint au groupe. Mais la première chose que lui demande un homme au sourire convenu est de donner son numéro d'enregistrement au casting. Mohamed tente d'utiliser la même stratégie qu'avec les vigiles. Mais il n'a pas le temps de commencer à raconter son histoire que l'homme lui coupe sèchement la parole. Sans numéro, n'espère pas participer à quoi que ce soit. Tu ferais mieux de filer avant de t'attirer des problèmes. Mohamed est désespéré. Il ne sait pas quoi faire. Il n'a même pas les moyens de rentrer en Palestine. Il va se terrer aux toilettes durant plusieurs minutes. Il laisse sa tête pendre sous l'eau froide du robinet. Des larmes se mêlent à l'eau au creux du lavabo. Le jeune homme se regarde longuement dans le miroir moucheté et fissuré. Il va maintenant falloir trouver le moyen de rejoindre son pays et sa famille. Doucement, de manière presque imperceptible, Mohamed se met à chanter. Une chanson qu'il avait l'habitude d'interpréter pour sa petite sœur durant les douloureuses semaines qui ont précédé sa mort. Progressivement, il augmente le niveau sonore de sa voix dans un crescendo du plus bel effet. Sa voix résonne maintenant dans toute la pièce. Magnifique mélopée qui se réverbère sur les carrelages des murs. Mohamed ne pleure plus. Chanter l'apaise, le réconforte. À ce moment-là, un garçon un peu plus jeune que lui sort de l'une des cabines. Il ferme précautionneusement la porte derrière lui pour s'assurer de ne faire aucun bruit. Il écoute Mohamed d'un air admiratif. À la fin de la chanson, un long silence plane encore, comme si rien ni personne ne voulait qu'il s'arrête de chanter. Son unique spectateur lui dit « J'imagine que t'as toutes tes chances. Je pense même que tu vas facilement te qualifier. » Dépité, Mohamed laisse tomber son regard vers le sol. Il explique qu'il n'a pas de numéro et que, par conséquent, il ne chantera que pour les toilettes aujourd'hui. Et là, le garçon lui répond « Oh, tu chantes si bien. Ce serait une perte que tu ne participes pas. Tu vas arriver en finale, j'en suis persuadé. » Des mots que Mohamed n'oubliera pas. Des mots accompagnés d'un geste. Le garçon lui tend son propre ticket. Les deux jeunes hommes échangent un long regard. Mohamed accepte sans hésiter. Il sort des toilettes. « Chanterai aussi pour toi », lance-t-il au garçon, tout en s'élançant à travers les couloirs. Il parvient dans le vaste studio juste à temps pour que son numéro soit enregistré. La suite de l'histoire sera largement médiatisée. Mohamed Assaf subjugue les jurés des auditions de Luxor. Il franchit aussi chaque étape qui le mènera à la grande finale du 22 juin 2013 à Beyrouth.